Vous êtes bien à l'écoute d'RFI, il est 15h à Paris, 14h temps universel. Le journal, les dernières infos, Florent Guignard, bonjour.
Bonjour et merci Nathalie Hamard, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, les accusations du patron de l'OTAN, il y a, dit-il, des soldats nord-coréens en Russie pour combattre l'Ukraine. Cette mort attire dans le sud du Liban. L'armée israélienne poursuit ses frappes et les localités se vident de leurs habitants. Reportage à suivre. On évoquera aussi dans ce journal les accusations de l'ancien président de la Bolivie, Evo Morales, dit avoir été victime d'une tentative d'assassinat organisée par l'État bolivien. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez autour de la question « Pourquoi mesurer les glaciers du monde ?» Ils sont nord-coréens et ils sont venus en Russie se battre contre l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a confirmé aujourd'hui la présence de soldats envoyés par la Corée du Nord pour soutenir la Russie en difficulté dans la région de Koursk après l'offensive ukrainienne de cet été en territoire russe.
Today, I can confirm.
Aujourd'hui, je peux confirmer que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie et que des unités militaires nord-coréennes ont été déployées dans la région de
Koursk.
Ce déploiement de soldats nord-coréens représente une escalade significative dans l'application de la République populaire démocratique de Corée dans la guerre illégale de la Russie. Deux, une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et troisièmement, c'est une expansion dangereuse de la guerre de la Russie. L'OTAN appelle la Russie et la Corée du Nord à mettre fin à ces actions immédiatement. Le déploiement de troupes nord-coréennes à Koursk est également un signe du désespoir croissant de Poutine. Plus de 600 000 soldats russes ont été tués ou blessés dans la guerre de Poutine et il n'est absolument pas en mesure de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans soutien étranger.
Mark Rutte, le patron de l'OTAN, traduction Nicolas Roca. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, lui est en Islande où il participe à un sommet des pays nordiques pour accroître le soutien à l'Ukraine. L'opposition en Géorgie vend debout contre les résultats des législatives qui ont donné la victoire de rêve géorgien, le parti pro-russe à Tbilissi. La présidente géorgienne, pro-européenne, opposée donc à rêve géorgien, dénonce un système sophistiqué de fraude. Une manifestation de l'opposition est organisée ce soir devant le Parlement et la France vient de demander une enquête sur, je cite, « les irrégularités constatées avant et pendant le vote ».
RFI, Radio France Internationale.
L'armée israélienne poursuit ses frappes sur la ville de Tyr, au Liban, au bord de la Méditerranée. Alors qu'une première série de bombardements a tué ce matin 7 personnes, 7 morts et 17 blessés selon le tout dernier bilan. Entre-temps, l'armée israélienne a appelé la population à évacuer certains quartiers face à ces bombardements à répétition. Les habitants du Sud-Liban, vous le savez, ont été nombreux à quitter la région. Certaines villes sont des villes fantômes. C'est le cas, par exemple, de Nabatieh, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre-Olivier et Jadel Khoury.
Dans les rues désertes de Nabatieh, des dizaines d'immeubles ne sont plus que des tas de gravats. Sur les 80 000 habitants que compte cette localité, il n'en resterait que 4 000. C'est au cimetière que nous rencontrons les premiers d'entre eux. Une famille entière y est enterrée. Cet homme dit être le seul survivant.
10 minutes après que j'ai quitté les lieux, une frappe israélienne les a touchés. Tout le monde est mort. Il y avait 2 maisons. Dans la première, il y avait 9 personnes. Dans la deuxième, il y en avait 4. Ce sont tous mes cousins. On est de la même famille.
À ses côtés, quelques volontaires portent les corps.
Les gens qui restent sont ceux qui ne peuvent pas partir. Les personnes âgées, celles qui n'ont pas de famille chez qui aller. Moi, je suis bénévole, j'aide, et c'est ce qui me motive à rester.
À l'hôpital public, jusqu'à présent épargné par les frappes, le docteur Wazini a installé un petit matelas. Il habite dans son bureau.
Je suis directeur de l'hôpital, je suis médecin. Il faut être là avec mon peuple, c'est notre devoir.
Pendant notre tournage, le quartier est de la ville a été bombardé. Presque tous les jours, Israël cible cette localité. Jadel Khoury, Pierre-Olivier Nabatier, RFI.
Dans 2h30, Emmanuel Macron sera au Maroc, accueilli à sa descente d'avion par Mohamed VI. La France et le Maroc mettent en scène leur réconciliation après 3 ans de brouille, visite d'État du président français, donc qui commence tout à l'heure et qui durera 3 jours. Une offensive meurtrière au Tchad de Boko Haram contre l'armée, près de la frontière avec le Nigeria, dans la région du lac Tchad. Les djihadistes ont attaqué une base militaire, tuant une quarantaine de soldats tchadien selon un communiqué de la présidence tchadienne. Des accusations qui font débat en Bolivie. Evo Morales, l'ancien président bolivien, affirme avoir échappé à une tentative d'assassinat orchestrée par l'État. Des accusations soumises à caution dans le pays, correspondance à la passe de Camille Bouju.
Tout a débuté avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'Evo Morales. On y voit l'ex-président dans un véhicule prétendument attaqué et criblé de balles. Peu après, Morales prend la parole. Il accuse le gouvernement de Luis Arce d'avoir tenté de l'assassiner.
Les ministres du gouvernement ont essayé d'utiliser 4 femmes pour me dénoncer. Les 4 ont refusé. Échec. Alors quand tout ça a échoué, le plan est devenu « il faut tuer Evo ».
Mais très vite, sa version des faits est remise en cause. Les internautes relèvent plusieurs incohérences dans la vidéo. Le chauffeur ne porte pas la même tenue, le tableau de bord est différent d'une prise à l'autre. En d'autres termes, il s'agirait d'un coup monté. Une théorie reprise par certains membres du gouvernement qui ont rapidement réfuté les accusations et parlé d'un auto-attentat prémédité par Evo Morales lui-même.
Il crée un écran de fumée et avec cet écran de fumée, Evo Morales veut fuir et échapper à la justice. Il espère obtenir l'asile dans un pays en disant que sa vie est en danger.
En attendant de connaître la vérité sur cette affaire, l'actuel président Luis Arce a lui condamné l'attaque et ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie. Camille Bouju, La Passe, RFI.
Un autre ex-chef d'État est dans l'actualité, l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte. Il a défendu aujourd'hui sa guerre anti-drogue qui avait fait des milliers de morts devant le Sénat. Yelena Tomic.
Ne remettez pas en question ma politique, car je ne m'excuserai pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait pour mon pays. C'est ainsi que Rodrigo Duterte a défendu sa campagne anti-drogue, qui aurait fait au moins 6 000 morts selon les données philippines, et entre 12 000 et 30 000 morts selon les estimations des procureurs de la CPI. Car la Cour pénale internationale a également ouvert une enquête sur cette campagne meurtrière, susceptible de constituer un crime contre l'humanité. Lors de cette première audience devant le Sénat, Duterte a expliqué que sa campagne ne visait pas à tuer des gens, mais à protéger les innocents et les personnes sans défense. Des propos qui vont à l'encontre des témoignages des familles des victimes et des rapports d'ONG qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires menées par la police et des tueurs à gages dans les quartiers les plus pauvres des Philippines en proie à la drogue. Cette convocation s'inscrit dans un contexte de rivalité entre les puissants clans, Marcos et Duterte, à quelques mois des élections de mi-mandat.
Yelena Tomic, on termine ce journal avec un chiffre record venu de Chine. La récolte des céréales devrait dépasser les 700 millions de tonnes cette année. La Chine, premier consommateur et premier producteur, RFI Pékin, Cléa Broadhurst.
Cette année, la Chine a été frappée par des précipitations extrêmes avec des inondations au sud et au nord-est et la sécheresse dans certaines régions du centre. Malgré cela, les pertes agricoles ont été limitées à 9 millions d'hectares, soit 2,9 millions de moins que la moyenne des années précédentes. La récolte record de Pékin a des répercussions importantes tant au niveau national que mondial. Elle permet au pays de renforcer son autosuffisance en riz, blé et maïs, réduisant ainsi sa dépendance aux importations et sa vulnérabilité face aux tensions géopolitiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Assurer un approvisionnement stable en denrées alimentaires permet aussi de maintenir les prix intérieurs sous contrôle, un atout essentiel pour gérer l'inflation et soutenir les ménages à faible revenu, surtout dans un contexte économique tendu. Si la Chine atteint l'autosuffisance autosuffisance pour ces cultures clés, la demande mondiale de soja, maïs et autres céréales pourrait baisser, entraînant une chute des prix. Cette récolte record apporte donc une sécurité alimentaire à la nation la plus peuplée du monde, tout en modifiant les échanges commerciaux mondiaux et soulevant des questions de durabilité. Cléa Broder, Pékin, RFI.
RFI, Paris, il est 15h10, fin de ce journal. Dans un instant, autour de la question.